Richard Martineau.
Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale.
Alors, nous parlons de politique américaine avec Luc Laliberté. Bonjour, Luc.
Oui, bonjour, Richard.
Écoute, est-ce que le droit à l'avortement est menacé aux États-Unis?
Écoute, ça fait des années qu'on observe ça. Puis l'avortement, c'est clair, dans la vie de tous les jours. Mais à chaque campagne électorale, puis les Américains, on le sait, sont constamment en élection, la question de l'avortement, depuis qu'on l'a décriminalisé en 1973, elle revient constamment. Puis on voit bien qu'il y a cette polarisation, d'ailleurs, encore une fois, là, non seulement entre les partis, mais entre les régions. Donc, ce que la Cour suprême a accepté ou a commencé à faire depuis hier, c'est d'entendre un recours du Mississippi qui tente de limiter, une fois de plus, de restreindre l'accès à l'avortement. Et on joue, et ça c'est une stratégie qui est plus récente, là, donc on joue sur le nombre de semaines à partir duquel on ne peut plus demander un avortement ou avoir accès à un avortement. Mais la Cour suprême, et c'est là où ça étonne et pas en même temps, je dis ça étonne et ça étonne pas, elle est rarement aussi conservatrice, la Cour suprême. C'est-à-dire qu'on a 6 juges très conservateurs, puis on a 3 progressistes. Et ce qu'on sent chez les conservateurs, c'est l'envie, pour certains d'entre eux en tout cas, d'en découdre sur le fond, sur l'accès à un avortement, point. Donc, la Cour suprême n'a jamais été aussi près, je pense, puis de l'avis de la majorité des observateurs, n'a jamais été aussi près de renverser le jugement de 1973. Donc, je répète, la cause qu'on a commencé à entendre concerne le Mississippi, mais les retombées de ce qu'on va décider à la Cour suprême pourraient avoir des impacts dans 21 des 50 États aux États-Unis. Donc, 21, là, c'est beaucoup. On en est presque à la moitié des États où on pourrait, dans les faits, ou concrètement, là, ça ne dit pas concrètement, mais même sur la question de fond, on pourrait limiter l'avortement au point où, finalement, il n'y en aurait plus. Si on allait jusqu'à... Si on n'autorise pas au-delà de 6 semaines, par exemple, quand on sait qu'une femme, bien souvent, ne sait pas qu'elle est enceinte à 6 semaines, donc, soit on dit, ben, on en arrive à un compromis entre les conservateurs en disant... On va pas attaquer le jugement de 1973, on va pas attaquer Roe versus White, donc on laisse en place l'avortement, mais on en limite l'accès après 6 semaines. Ou encore, et c'est là où je disais, c'est là où on peut vivre un moment historique, on va se réjouir ou on va être catastrophé selon, bien sûr, le camp dans lequel on est, mais on pourrait aller aussi loin que renverser le jugement Roe versus White de 1973.
Écoute, parce que tu vois, au Canada, là, techniquement, au Canada, tu peux avorter la veille de ta naissance. Hein? Il n'y a pas de limite de temps. Bonne chance pour trouver un médecin qui va le faire. Mais théoriquement, tu peux avorter à 9 mois. Là, moi, j'ai un problème avec ça. Moi, je me dirais, je pense qu'on met en France après, je sais pas, 3-4 mois. Bon, tu sais. Mais là, c'est pas ça aux États-Unis, là. C'est que ce serait interdit. Point.
Voilà. Et ça, il y a plusieurs impacts à ça. Bien sûr, ça veut dire que ce qui prend le pas, c'est vraiment la question du respect du corps de la femme, qui est une décision individuelle, personnelle. Du moins, c'est souvent ce qu'on allègue hein, quand on défend, bien sûr, le libre choix, l'accès à l'avortement. Donc, il y a ça, mais ça a aussi des retombées, j'ai envie de te dire, sociales, au sens où des femmes pourraient aux États-Unis, même si elles se retrouvent, imaginons le scénario le quasi dystopique, mais on aurait 21 des 50 États qui interdisent l'avortement, des femmes de milieux plus aisés, des femmes qui ont les moyens, pourraient traverser des frontières puis aller dans un autre État, là où l'avortement est permis. Ce que ça veut dire, c'est qu'on retourne dans le temps pour des gens qui arrivent plus serrés, là, ou des gens qui sont défavorisés. On retournerait à des pratiques d'avortement parce qu'on va pas payer pour se déplacer, on va pas payer pour un hôtel, pour se nourrir, donc pour aller avorter ailleurs. Ça veut dire qu'on pourrait revenir à de vieilles méthodes, une époque qu'on pensait révolue, des avortements illégaux dans des conditions qui sont loin d'être parfaites ou idéales ou saines. Donc, on vise aussi au plan social avec ça une clientèle qui est plus défavorisée. Ce sont ces gens-là qui vont payer le gros prix de la tendance actuelle.
Mais est-ce que leurs arguments, là, les gens qui veulent limiter le droit à l'avortement, est-ce qu'ils sortent des arguments religieux, c'est-à-dire que dès qu'il y a 2 cellules dans l'utérus, il y a une présence divine dans le ventre de la dame?
Écoute, on en est là pour les plus farouches partisans là, de la fin de l'avortement ou des restrictions de l'avortement. Ce qui est un peu paradoxal dans cette situation-là pour beaucoup d'États américains, c'est qu'autant on va valoriser la vie à part de temps et aussi longtemps qu'elle est, entre guillemets, dans la femme, donc qu'il y a le fœtus, qu'il y a l'enfant qui se développe, on n'accompagne pas cette volonté-là de mesures sociales, d'accompagnement, d'encadrement, à la fois pour la femme et pour l'enfant. Donc, la vie ou le droit à la vie est sacré tant aussi longtemps qu'on parle de conception puis qu'on parle de grossesse. Mais une fois qu'on t'oblige à porter cette grossesse à terme, une fois que l'enfant naît, t'es à toute fin pratique abandonné par ta société ou par certains États. Donc, il faudrait faire le tour des 21 pour ajouter les nuances nécessaires. Mais dans certains cas, donc, il y a comme pas la logique s'arrête à partir du moment où la femme accouche. Et on l'oblige tout ce temps-là à conserver ça. Dans plusieurs États, par exemple, il n'y a pas d'obligation pour le conjoint hein, d'assumer ses responsabilités ou pour le géniteur d'assumer ses responsabilités. Donc, on a une logique variable selon l'état de la situation.
Écoute, comme je te dis, moi, personnellement, des avortements, mettons, à 5-6 mois, là, j'ai des problèmes éthiques, moraux, c'est mes affaires à moi. Mais là, de dire, écoute, dès le début, là, dès qu'il y a une division de la cellule, qu'il y a une présence divine, dans ce temps-là, je m'excuse, mais tu sais, interdisons la masturbation parce que c'est du sperme perdu. Je dis, non, mais à la limite, là, tu sais...
Oui, ben écoute, c'est Bill Maher, l'humoriste américain, qui disait finalement la vie débute à l'érection à partir du moment où on met la machine en branle sans faire des jeux de mots déplacés. Donc à partir de là, lui disait on pousse l'argument du côté ridicule, mais bien sûr on le sait, Bill Maher c'est une grande gueule, il se revendique, lui se dit très liberal aux États-Unis ou très très progressiste, donc il est assurément pas dans le camp, mais tous les deux, je pense, on s'entend là-dessus, c'est qu'on ne parle pas là, d'avortement qui remplace, par exemple, la contraception, d'un accès qui n'est pas accompagné, d'un accès qui serait irresponsable. On parle d'une réflexion sérieuse, éthique et morale, mais ce qu'on voit dans les États les plus conservateurs, c'est que rien, mais absolument rien, ne justifie un avortement.
Attends, mais même pas un viol, Luc?
Non, même pas un viol. Donc, dans les cas les plus radicaux, là, dans les cas les plus, à mon avis, là c'est subjectif, mais les plus intolérants, on va obliger, peu importe les circonstances, la femme à porter l'enfant puis à mener cette grossesse à terme. L'autre chose qui me fascine beaucoup là-dedans, moi, et ça va avec tout le climat politique aux États-Unis, c'est que tranquillement, ce qu'on perçoit au sein du plus haut tribunal de la Cour suprême, c'est que les juges commencent à émettre des opinions personnelles au sujet du travail des autres juges. Et ce que ça donne comme impression aux Américains, puis je pense que si j'étais aux États-Unis, je m'inquiéterais moi aussi de la chose. Comme observateur, je le remarque, c'est que les conservateurs et les progressistes émettent des réserves sérieuses publiquement. Habituellement, les juges, c'était considéré, hein, on se dit, ben, ils ont été nommés par Obama ou par Trump. On pense qu'ils sont plus conservateurs ou plus progressistes, mais souvent, ils nous étonnent. Le juge en chef actuel, M. Roberts, c'est un de ces juges dits conservateurs, mais qui bien souvent est dans la balance, puis vote, par exemple, en compagnie des progressistes. Donc, tout ça pour dire, il y a une indépendance, une séparation des pouvoirs, puis on remettait pas ça en question jusqu'à tout récemment. Et il y a peut-être de nos auditeurs qui ont remarqué ça hier ou avant-hier. Il y a une juge progressiste qui a été nommée par Barack Obama, qui est Mme Sotomayor, qui est la première hispanophone, d'origine hispanophone, à être nommée à la Cour suprême. Et elle a dit, la Cour suprême est maintenant devenue politique. Je m'inquiète du fait qu'il y a un agenda pour certains juges parmi les plus conservateurs. Donc, est-ce qu'elle a raison ou pas? On pourrait débattre de ça longtemps. Moi, ce que je relève, c'est que dans la tête des Américains ou pour des électeurs américains, il y a de moins en moins de limites entre le judiciaire puis l'exécutif.
Très intéressant.
Donc moi c'est ce que je surveille de près. C'est je te le répète souvent, hein, la démocratie américaine, c'est ce que je suis sur le fond, au-delà du croustillant ou du spectaculaire. Et elle a rarement été aussi ébranlée que dans les dernières années, dans les récentes années.
Alors les gens qui veulent lire un bouquin passionnant sur la Cour suprême américaine, c'est Donaine. un essai absolument passionnant là-dessus. Écoute, Luc, j'applaudis à trois mains l'entrée au Panthéon à Paris de Joséphine Baker. Parce que là, il y a des gens qui pourraient dire, bon, oui, ben là, on veut être à la mode. C'est une noire, Joséphine Baker, la diversité, etc. Bon, on veut gagner des points. Non, non, non. Non, elle le mérite amplement.
C'est une vie absolument extraordinaire là, vraiment. Exceptionnelle. Et ça peut être controversé, on peut en apprécier des bouts ou pas. Reste qu'objectivement, quand on regarde là d'où est partie Joséphine Baker, les conditions dans lesquelles elle a vécu sa jeunesse, elle est au travail dès l'âge de 12 ans. C'est une réalité pour assurer ses besoins puis pour subsister par elle-même. Et on va voir cette femme-là donc quitter les États-Unis, aller s'imposer en France, devenir une vedette avec des retombées au plan international. Elle a servi, les gens s'en souviennent peut-être, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, elle a servi du côté de la résistance.
Ben oui.
Elle va lutter pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs. Écoute, pour donner une idée là, du monde dans lequel elle évolue, parce que je voulais pas trop prolonger, mais les gens se rappellent la marche sur Washington en 1963 avec Martin Luther King. Et tout le monde se rappelle de « I have a dream ». Mais les gens se souviennent pas toujours que Joséphine Baker est là la même journée. Et qu'elle dit « Vous savez, dans ma vie, j'ai marché et j'ai pu accéder au palais des rois, des reines ou des présidents, mais je ne pouvais pas dans mon pays accéder à certains hôtels ». Et c'est dire donc à quel point elle est parvenue à la force du bras, de la volonté, du talent, du travail à s'imposer ailleurs, mais que chez elle, même au fait, au sommet de sa gloire, on lui refusait encore d'entrer dans certains établissements.
Incroyable, incroyable.
Et on parle pas du Deep South, Richard, là, on parle de New York.
Incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'artistes noirs qui sont allés à Paris, James Baldwin, entre autres, et tout ça.
Voilà.
Coltrane, et Miles Davis, parce qu'ils trouvaient une liberté à Paris qu'ils n'avaient pas aux États-Unis. Il faut rappeler qu'elle a adopté, je sais pas combien d'enfants exactement, là. Josephine Baker, plus de 10 enfants, 13 enfants, je pense. Écoute, moi, il y a deux femmes artistes qui m'impressionnent, pour qui j'ai une admiration sans borne. C'est Josephine Baker et Dolly Parton. Vraiment.
Oui,
Dolly Parton aussi, qui a une histoire de vie hallucinante.
Voilà, et tu compares vraiment deux styles musicaux, mais deux individus très différents. Mm. Et effectivement, je suis bien d'accord avec toi, elles ont toutes les deux des histoires extraordinaires. Ça vaut la peine de s'asseoir, puis d'aller s'informer, ou même de lire une biographie quand on en a le temps et l'occasion. Mais c'est deux personnages plus grands que nature, hors du commun.
Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu là qu'il est en production, je crois, je sais pas si c'est un long métrage ou une mini-série, mais sur la vie de Joséphine Baker, je peux pas croire qu'il n'y en avait pas jusqu'à maintenant.
Non, tu vois, moi non plus, c'était une de mes interrogations quand j'ai recommencé à lire sur Joséphine Baker. Puis entre autres, je m'intéresse beaucoup à ce que fait l'Institut Smithsonian aux États-Unis, qui a lancé entre autres le musée d'histoire afro-américaine. Et à mon grand étonnement, il y a très très peu de choses qui ont été faites sur ce personnage-là, je répète, qui va de chaque côté de l'océan Atlantique rayonner, puis confronté à la guerre, puis confronté chez nous ou en Amérique à la question raciale. Il y a très très peu de gens quand même qui s'en sont tirés de ça, puis qui sont parvenus à faire le travail pour lesquels donc on rend des hommages bien mérités. Mmh. Donc elle devient de mémoire, écoute, je pense que c'est la cinquième femme au Panthéon, la première femme noire, et ben je ne peux qu'appuyer ce que tu as dit. C'est largement mérité.
Oui, tout à fait. Il faut le saluer que la France a ouvert ses bras, mais rapidement, Joséphine Baker, elle est arrivée là-bas, elle est devenue une star. Les Français l'ont adoptée tout de suite, rapidement. Elle a pu frayer dans des milieux très sophistiqués, là. Elle était comme la nouvelle grande vedette, là. Et tu sais, les gens qui disent que la France a un passé raciste, on peut en discuter, là. Effectivement, face à l'Algérie, effectivement, face à l'Indochine, mais en tout cas, pour les Noirs américains, ils étaient quand même très accueillants.
Non, voilà, puis tu vois, on dit pas que ce passé-là n'a pas des accros ou des irritants. Ce qu'on dit, c'est que ce qui était impossible aux États-Unis a été rendu possible en France. Et ne serait-ce que ça, ça mérite d'être souligné.
Tout à fait. Merci beaucoup, Luc. La Liberté, bon week-end, merci.
Une bonne journée. Bon week-end, Richard.
Bye.